On jase à l'instant avec un gars qui est toujours en Floride et qui a vécu la réunion des gouverneurs hier et aujourd'hui. Collaborateur régulier pour l'avant-match, c'est Louis-Jean qui est au téléphone. Salut Louis!
Salut Dan, oui, tout le temps en Floride, certain, oui.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi? Hey. Je sais que c'est des moments difficiles pour les gens à Québec.
Ah ben oui, ben oui, c'est sûr. Je parlais de la KHL hier à la blague, évidemment. Penses-tu que tes deux gars qui jouent pour les Bastions, penses-tu qu'on pourrait les récupérer et les faire jouer au centre Vidéotron?
Assuré, écoute.
Hein, il aimerait ça?
Je pense qu'il va. Écoute, pourquoi pas? Un bel amphithéâtre comme ça, il va falloir qu'on essaie de trouver des gens pour aller voir le match. Là.
Ouais, ben non, mais écoute, au niveau marketing, je te dis, on peut être créatif, par contre.
Vous êtes pas là-dessus,
On peut. Tu sais qu'on était 65 000 sur les plaines avec nos chandails des Nordiques à présenter d'anciens joueurs des Nordiques qui sont à peu près tous rendus dans la soixantaine et on s'est enflammé le 2 octobre 2010.
Oui, mais tu sais, je veux pas avoir l'air du gars qui représente la Ligue nationale de hockey parce que
c'est tout simplement
pour Québécois, travaille pour une entreprise qui clairement aussi souhaite ardemment le retour des Nordiques de Québec. Moi, ce que je veux dans notre conversation là, ce que je veux que les gens comprennent, c'est les discussions que j'ai avec les gens, des sources, des gens extrêmement branchés, le commissaire, le bras droit. Des gens qui ont participé ou passé par le processus d'expansion, etc. Et je sais que c'est difficile. J'ai eu peut-être même qualifié d'une troisième aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles qui sont encourageantes encore une fois.
Hey Louis, ton cellulaire, il faudrait pas que tu bouges parce qu'on a de la misère à t'entendre.
Quoi, je suis en route vers l'aéroport, là, malheureusement.
Faut que tu bouges.
Faut que je bouge, j'ai pas même le choix.
OK.
Mais tout ça pour dire que je sais que c'est difficile. Et je sais aussi que pour les gens, on se dit, bon, il y en a qui croient à la théorie du complot, le fait que, bon, finalement, la Ligue nationale s'est peut-être servie de Québec pour essayer de faire monter les enchères ailleurs ou ces choses-là. Là-dessus, je dirais aux gens qui croient ça et qui le pensent véritablement de prendre un instant, là, prendre un peu de recul. Et là-dessus, je vous dirais une chose, vous êtes dans le champ, vous vous trompez. La Ligue nationale de hockey ne s'en va pas à Québec demain matin, c'est clair. Le retour des Nordiques, ce sera pas demain matin non plus, mais le rêve n'est pas mort non plus. Il n'est pas complètement mort. En tout cas, il y a encore de l'espoir. Et je vais citer l'exemple de Seattle qui, il y a deux ou trois mois seulement, c'était impossible qu'il y ait une équipe de la Ligue nationale à Seattle. Et probablement qu'avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, ça a changé rapidement et ça démontre la volatilité de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Qui aurait pensé il y a 12 mois qu'on essaierait de vendre une équipe d'expansion, 650 millions de dollars. Je veux dire, les choses ont changé extrêmement rapidement. C'est très volatile, comme je le disais. Ce qui fait en sorte que, d'une certaine façon, c'est certainement pas impossible. C'est le message que j'essaie d'envoyer.
OK, mais tu comprends que les gens de Québec sont déçus. Hier, je faisais l'analogie tantôt.
Je suis tout autant, non?
Ben oui, je sais que tu l'es aussi. Dans le corridor, quand on reçoit une jambette, on tombe vite à terre. Quand on reçoit deux jambettes, ben ça se peut qu'on saigne du nez. Je pense que c'est l'image qui caractérise actuellement les gens de Québec. Mais tu dis, OK, le rêve n'est pas complètement mort. Parfait. Partons de la théorie des Coyotes de Phoenix, qui ont eu le temps de changer de nom. C'est devenu les Coyotes de l'Arizona, tellement la saga a été longue. Ça date de 2009, si ma mémoire fait pas défaut. Il y a eu également les Islanders de New York qui ont tourné en rond, finalement se sont retrouvés à Brooklyn. Ils sont pas super heureux, mais ils sont là pour l'instant. En Floride, on sait pas trop ce qui arrive, mais le propriétaire a dit à Stéphane Gallerette, les Panthers sont ici pour rester. Évidemment, c'est le message de Gary Bettman, on le comprend bien. Entre-temps, je pense que les Devils ont été vendus. Les Hurricanes de la Caroline, hier, sont vendus à 52%. Tu dis, le rêve n'est pas complètement mort, mais quelles sont les options qui restent actuellement dans la Ligue nationale pour peut-être que les plus optimistes à Québec continuent de rêver?
Ben, la première des choses, c'est que souvent, au fil des ans, il a fallu qu'on découvre un peu ce que Gary Bettman nous disait. C'est pas qu'il mentait, c'est qu'il parlait comme un avocat, avec un langage qu'il fallait vraiment que tu essaies d'interpréter et de comprendre et de décoder la bonne chose dans son message. Ça, c'est une des choses. Je te dirais que depuis 2 ans, ce qu'il dit, c'est essentiellement la vérité. Il est très candide, il est très ouvert, il est très transparent. Hier, quand c'était le temps de parler de Seattle, il aurait pu essayer de nous endormir et de dire, écoutez,
appliquer.
Oui, on a parlé de Seattle, on n'est pas rendu là. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Quand il nous a parlé de Québec et de Vegas, il avait toujours mentionné l'importance d'avoir un équilibre, même avant le processus,
oui,
équilibrer les conférences. Moi, sincèrement, je me disais, écoute, on va s'organiser, là. On va renvoyer Columbus dans l'Ouest. On va trouver une façon pour faire que, pour s'assurer qu'on équilibre autrement.
Hey, Louis, Détroit a joué 20 ans dans l'Ouest. On s'est entendu qu'on aurait pu s'arranger, là?
Ben, exactement. Je suis d'accord. Mais, au jeu de la Ligue nationale d'hockey, ça crée quand même un problème. C'est pas un fit naturel. Tout ça pour dire que ce qu'ils ont dit, c'est exactement ce qu'ils pensaient. Et vraiment, là, ce qu'ils nous disent, c'est que, regarde, on voulait avoir 16 dans l'Est, on va en avoir 16 dans l'Ouest. On veut pas qu'il y ait des équipes qui voyagent et qui traversent le pays parce qu'ils jouent dans l'Est, alors que géographiquement, ils devraient se retrouver dans l'Est. Alors, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a le fameux chiffre magique. On va arriver à 32 normalement avec Seattle. On va avoir l'équilibre parfait Est et Ouest. Quelles sont les options maintenant pour Québec?
Oui.
Les options sont les Islanders de New York. Ils ont un propriétaire qui est milliardaire, qui a beaucoup, beaucoup de ressources financières et autres pour pouvoir garder les Islanders à Long Island. Le problème, c'est que le dossier n'est pas entre ses mains. Le dossier n'est pas entre les mains non plus de la Ligue nationale de hockey. C'est le gouvernement, l'État new-yorkais qui est en train de déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec l'amphithéâtre à Belmont Park. Alors ça, pour l'instant, même si la négociation, la Ligue nationale va essayer de convaincre qui que ce soit, c'est pas entre leurs mains. Et ça fait des années qu'on tente de trouver une solution pour remplacer le Nassau Coliseum. Ça, c'est un. Alors, le dossier des Islanders de New York, même si je pense qu'ils vont demeurer à New York, c'est pas certain. Même la Ligue nationale, aucune idée de quel côté tout ça, ça va aller. L'autre dossier, c'est les Panthers de la Floride. Hier soir, j'étais à Sunrise pour le match entre les Jets et les Panthers. Encore une fois, il y a un propriétaire qui est arrivé, un milliardaire, qui a fait sa fortune, lui, à New York, entre autres, vient de vendre sa résidence à New York au coût de 100 millions de dollars. Lui aussi a tout ce que la Ligue nationale souhaite. Le problème, c'est que Vince Viola, il a 50 différents business. Il a refusé un poste du président Donald Trump, un poste très important au sein du gouvernement américain, parce qu'il y avait des chevaux de course, il y a différents business. Il sait pas trop de quel côté il s'en va, mais il y a beaucoup de business. Est-ce que le hockey, c'est une priorité pour lui? Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un bon bail au BB&T Arena. Mais il n'y a personne qui se présente.
Personne.
Et il a fait des erreurs majeures l'année passée. Donc, deux options pour l'instant qui se présentent, qui pourraient éventuellement se présenter pour Québec. C'est Long Island, c'est les Islanders, et c'est à Sunrise, les Panthers.
OK, ça fait deux jours que tu es en Floride, tu as entendu tout ce qui s'est dit dans les corridors. Dans quelle mesure le 650 millions pour Seattle est véridique, et dans quelle mesure ça ne peut pas monter à 700 ou 800 millions dans le futur?
Bon, ça peut. Écoute, ça peut. Je me serais attendu à ce que Seattle on dise même chose, 500 millions. Qu'est-ce qu'on a demandé à Vegas? C'est pas comme si Vegas, on aurait demandé ça il y a 10 ans, là. Ça fait même pas 2 ans qu'on a demandé le 500 millions de dollars. Alors, les choses évoluent et t'as sûrement lu comme moi, plus tôt cette semaine, l'évaluation de la publication Forbes qui disait que les franchises sont à la hausse. Ça grimpe de façon astronomique année après année. Les revenus dans la Ligue nationale de hockey, même chose. On parle de 8% d'augmentation des revenus reliés au hockey cette année. Ça continue d'augmenter. Et là, rappelle-toi, il y a 5-6 ans, quels étaient les marchés intéressés à avoir une équipe d'expansion? Zéro. Il n'y en avait à peu près pas. Et là, soudainement, la Ligue nationale a des options. Ça veut dire que les hommes d'affaires, les milliardaires, les gars qui ont des business qui fonctionnent beaucoup plus que le hockey, soudainement, jugent que ça vaut la peine, c'est une bonne affaire d'avoir une franchise de la Ligue nationale de hockey. C'est rentable. On peut se questionner, nous autres, que le marché des Hurricanes en Caroline est viable. On peut se poser la question pourquoi contre la Phoenix. On peut se dire, oui, mais regarde Sunrise, il n'y a personne dans le gradin, on donne des billets, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des hommes d'affaires qui trouvent une façon de faire leur compte jusqu'à un certain point avec tout ça. Alors écoute, tu sais, les gens à Québec et au Québec se disent, oui, mais ça n'a pas de sens qu'on n'ait pas d'équipe à Québec. C'est vrai, mais ultimement, les décisions se prennent par des milliardaires, par le commissaire Gary Bettman. Et il ne veut pas déraciner une équipe à moins qu'il soit extrêmement, extrêmement mal pris.
OK, le monsieur qui achète les Hurricanes à 52%, dans 3 ans, il peut tasser M. Carmanos, mais il faut qu'il garde l'équipe là pour 7 ans. On parle de 500 millions. Est-ce que c'est ce que tu as entendu dans les corridors là-bas?
Oui, exactement. Le montant exact est encore à être finalisé. Là, il y avait des choses, d'ailleurs, quand l'annonce a été faite hier sur l'entente d'achat entre Carmanos et Dundon, Thomas Dundon, un milliardaire de Dallas. Il y avait encore quelques clauses qui devaient être réglées, mais on était suffisamment avancé pour dire, écoute, il devient le propriétaire majoritaire. Dans 3 ans, il peut devenir l'unique propriétaire des Hurricanes. Mais oui, et d'ailleurs, le montant, le pourcentage, le 48% qu'il peut racheter de Carmanos dans 3 ans, le montant sera déjà aussi établi dans la transaction quand on aura vraiment fixé le prix exact. Mais ça oscille autour de 500 millions de dollars. Ce qui, sincèrement, moi, ça me jette à terre. Parce que, écoute, des gens qui ont travaillé pour l'organisation, des gens dans l'organisation, pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a 6 mois, me disaient, il y a personne dans le marché qui est prêt à acheter l'équipe et la garder là-bas à Caroline. Alors, on voyait personne de l'extérieur non plus se manifester. On se disait, bon, ben, ça va être un déménagement où M. Carmanos va continuer de perdre de l'argent année après année. Mais qu'est-ce qui se produit? Encore une fois, comme je te dis, il y a des jeunes, des gens qui font de l'argent, des milliardaires, qui font de l'argent rapidement comme ça et qui décident d'investir dans différentes choses, dont le sport, dont la Ligue nationale de hockey, qui clairement à la cote actuellement.
Je veux pas mettre un bémol à ce que tu nous as dit pour les Islanders et les Panthers. Au contraire, c'était bien intéressant comme information. Par contre, faut expliquer, Louis, aux auditeurs à l'écoute ce soir, que le 650 millions qui va arriver de Seattle et le 500 millions qui arrive de Las Vegas est partagé entre les propriétaires. Et depuis la dernière convention collective, les joueurs ne touchent pas un sou noir. C'est un peu plus évident parce qu'il y a moins de sous noirs en circulation actuellement, mais ne touche pas de 25 cents ni de dollars en papier de cette transaction-là. Donc, l'équipe qui perd, on va dire, 4-5 millions depuis 4-5 ans, elle a reçu un chèque pour Vegas pour cette année, 500 millions divisé par 30, et va recevoir 650 millions divisé par 31 dans 3 ans. Ça aide en tabarouette à éponger le déficit.
Ben exactement. Puis ça démontre le génie d'un gars comme Gary Bettman. Je veux dire, de pouvoir convaincre des gens de pouvoir débourser autant pour une organisation. Puis il y a vraiment une parenthèse extrêmement, extrêmement importante à faire dans tout ça. Parce que les 650 millions de dollars, là, c'est pour une expansion à Seattle ou un déménagement. Et ça, c'est une nuance extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on a toujours pensé que pour Québec ou pour les marchés qui souhaitaient un déménagement, que ce serait moins cher. Ça a toujours été comme ça dans le passé. Aujourd'hui, clarification du commissaire Gary Bettman. C'est quoi cette clarification-là? C'est que si Seattle obtient une équipe via expansion, ça va coûter 650 millions de dollars. Si c'est un transfert, ça va coûter quoi? 650 millions de dollars. Il n'y a pas d'aubaine à faire si c'est un déménagement. Autrement dit, okay, si on décide de déménager, je vais donner un exemple. Là.
Les sénateurs, mettons, au Québec.
Les sénateurs, mettons.
Oui.
On peut les déménager à Québec.
On regarde Forbes, ils valent 380 millions. On dit, oh, on va leur faire un petit bonnet, on leur donne 420, ça sera pas assez.
C'est pas assez. 650 millions de dollars, c'est le prix qui a été établi. À moins, puis comme ça revient au point de volatilité que je mentionnais tout à l'heure. Là.
Oui.
À moins que soudainement, là, les choses... Parce que ça peut changer vite. Là. Il peut y avoir des propriétaires qui ont fait leur milliard en 10 ans, qui soudainement aussi se retrouvent dans le pétrin. Alors, les choses peuvent changer et évoluer rapidement, mais au moment où on se parle, si tu veux avoir une équipe à Québec, c'est plus rendu 500 millions, millions US, c'est rendu 650 millions en date d'aujourd'hui.
Parfait, gros,
ça,
merci,
ça,
Louis.
Une bonne nouvelle.
Ouais, c'est...
Ça fait plaisir beaucoup.
En effet, c'est une nouvelle... On va dire que c'est une nouvelle réalité.
Ouais, exactement, exactement.
Bon week-end à toi.
All right, toi aussi, on se parle lundi.
Sans faute, salut, Louis. Lundi, évidemment, il va être question pas mal plus du Canadien que de la réunion des gouverneurs. Je veux vous entendre là-dessus. Êtes-vous désillusionné? L'étiez-vous avant les décisions d'hier? Vous voyez ça comment, le retour d'une équipe de hockey à Québec? Il va falloir continuer d'encourager les remparts. C'était quoi le slogan? Tatouer remparts. OK, M. Bettman, dans le fond, il dit, faites-vous faire un tatou des remparts. 418-670-9330, 418-670-9330. Prenez place sur les circuits téléphoniques.